VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du 11 mai 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Accord historique de coopération judiciaire entre le Niger, le Mali et le Tchad face aux défis djihadistes et trafics de toutes sortes.
Au Libéria, 31 cas de méningite, dont 13 décès, ont été enregistrés dans 3 provinces du pays.
Ouverture aujourd'hui à Londres d'une conférence internationale sur la Somalie.
Ici à Washington, poursuite de la controverse sur le limousage du directeur du FBI par le président Trump, qui persiste et signe.
Et puis le président américain a reçu hier le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pour discuter de la Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Niger, le Mali et le Tchad, confrontés aux attaques djihadistes et trafics de toutes sortes, ont signé à Niamey un accord historique de coopération judiciaire. Les précisions de John Linden.
Les frontières entre le Mali, le Tchad et le Niger n'existent plus en matière judiciaire, a commenté le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Hassan, qui salue un accord historique dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Pour Marou Amadou, ministre nigérien de la Justice, la signature de cet accord intervient à un moment où le Tchad, le Niger et le Mali sont confrontés aux grands défis de l'heure, le terrorisme et le crime organisé, le trafic de drogue, la traite des personnes et le trafic des armes. L'accord signé par les ministres de la Justice de ces trois pays prévoit la mise en place de commissions rogatoires internationales, l'échange entre les États des actes judiciaires, la comparution des témoins, experts et personnes poursuivies et une politique de coopération en cas d'extradition. Il autorise également des enquêtes conjointes et le transfert des poursuites. Les trois pays sont en proie à de nombreuses attaques des groupes djihadistes, dont Boko Haram.
Au Libéria, les prélèvements sur des victimes d'une maladie mystérieuse signalée depuis plus de 2 semaines se sont avérés positifs à la méningite. Morgane Guériec.
Selon un communiqué du ministère libérien de la Santé, 31 cas, dont 13 décès, ont été enregistrés dans 3 provinces. Les premiers symptômes provoquent de la fièvre et des vomissements. Cette maladie a d'abord été enregistrée le 23 avril dans la province de Sinoué, puis propagée jusqu'à Monrovia, la capitale. Les analyses des prélèvements sur des patients ont été négatives au virus de la fièvre Ebola et de la fièvre de Lassa, mais les tout derniers échantillons transmis au Centre américain de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta se sont révélés positifs à la méningite. Le Libéria n'avait jamais connu de cas de méningite qui fait des ravages dans le Sahel. Le pays a déjà été sévèrement touché par l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée en Afrique de l'Ouest en décembre 2013 et avait fait plus de 11 300 morts dans 3 pays de la région.
En Tunisie, le président de l'instance chargée des élections, dont la démission a provoqué une onde de choc, a expliqué hier qu'il entendait tirer la sonnette d'alarme sur la difficulté d'organiser un scrutin crédible. Anastasie Tudiech.
Hier, devant une commission parlementaire, Shafik Sarsar a parlé de sonnette d'alarme, évoquant des licenciements abusifs et des pratiques policières comme le piratage de messageries électroniques. Personnalité très respectée pour avoir mené à bien les législatives et la présidentielle de 2014, M. Sarsar avait annoncé mardi sa démission de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Il avait dit qu'il ne pouvait plus travailler de manière impartiale et transparente et que c'est une affaire qui touche aux valeurs démocratiques. Le président Béjikaïe Sepsid a critiqué sa démission, l'appelant à privilégier l'intérêt supérieur de la Tunisie. Plusieurs députés lui ont demandé de revenir sur sa décision. Le pays doit tenir ses premières municipales le 17 décembre, un scrutin essentiel pour la poursuite du processus démocratique dans ce pays, berceau du printemps arabe.
Les agences humanitaires opérant en Somalie se disent préoccupées par des informations signalant de prochaines offensives militaires dans le pays au moment où le risque de famine y persiste. Elles ont exprimé ces soucis hier en prélude à la conférence internationale sur la Somalie qui se tient aujourd'hui à Londres. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a récemment déclaré la guerre à Al-Shabaab et s'est donné un délai de 2 ans pour défaire ces terroristes islamistes.
Les gardes-côtes libyens ont intercepté plus de 500 migrants hier en mer après une intervention potentiellement dangereuse d'un navire de secours allemand qui tentait de les récupérer, arguant que la Libye n'était pas sûre. Tous les migrants secourus au large de la ville de Sabratha ont été ramenés sans problème à Tripoli.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a continué à défendre sa décision de limoger le directeur du FBI, James Comey, en déclarant hier dans le bureau Oval que M. Comey tout simplement ne faisait pas du bon boulot. Auparavant, dans un tweet, il avait accusé M. Comey d'avoir perdu la confiance de tout le monde à Washington, républicain comme démocrate. Jean-Roger Bion fait le point.
M. Trump s'est promis de remplacer M. Comey par quelqu'un de meilleur qui restituera au FBI l'esprit et le prestige qu'on lui connaît. De leur côté, le vice-président Mike Pence et la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee, ont défendu la décision du président. Et Huckabee a répété les reproches faits hier à M. Comey dans les deux lettres des patrons du département de la justice. Mais les détracteurs du président se demandent, eux, si ce limogeage n'était pas lié à l'enquête du FBI sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine de novembre dernier et une collusion éventuelle entre des membres de la campagne de M. Trump et des intérêts russes. La sénatrice démocrate Dianne Feinstein, vice-présidente de la commission judiciaire, a dit que le départ de M. Comey et le timing de cette décision doivent être examinés. Son collègue républicain Lindsey Graham a pour sa part cité les récentes controverses autour de James Comey, estimant qu'un nouveau départ ne serait pas une mauvaise chose pour le FBI et la nation. Mais d'autres parlementaires républicains estiment que la décision du président a causé une rupture. Leurs homologues démocrates ont quant à eux continué à réclamer la nomination d'un procureur spécial pour poursuivre l'enquête du FBI.
Signalons aussi que le président Trump a reçu hier à la Maison-Blanche le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Leurs entretiens, qui ont surtout porté sur la Syrie, ont été qualifiés de très très bons par M. Trump. S'adressant à la presse à l'ambassade russe, M. Lavrov a parlé de l'étape que constitueraient les zones de désescalade en Syrie vers l'arrêt de la violence à travers ce pays.
Selon la Maison-Blanche, il a été également question du soutien de Moscou au Syrien Bachar al-Assad, de l'Iran et du Hezbollah, et aussi de l'intérêt du président à établir des relations de travail pragmatiques et mutuellement bénéfiques avec la Russie. Pour la petite histoire, et selon l'AFP, la rencontre Trump-Lavrov a été immortalisée par des photos diffusées par la diplomatie russe, la presse américaine n'ayant pas été autorisée dans le bureau ovale.
En Syrie, l'alliance de combattants kurdes et arabes qui luttent contre le groupe État islamique s'est emparée hier de la ville de Tabqa et son barrage, étape clé dans la bataille pour le fief djihadiste de Raqqa, en attendant les livraisons d'armes américaines. Pour accélérer la défaite des djihadistes, la Maison-Blanche vient d'autoriser le Pentagone à livrer des armes aux YPG, composante kurde des FDS, considérée par les États-Unis comme la meilleure force pour affronter l'État islamique, le groupe État islamique dans le nord de la Syrie.
La CIA a annoncé hier avoir mis en place une unité spéciale dédiée à l'évaluation de la menace nucléaire émanant de la Corée du Nord. C'est la première mission de l'agence de renseignement focalisée sur un seul pays qui réunit les ressources de plusieurs unités et analyse les informations sur les programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang dont les capacités pourraient menacer les États-Unis.
Au Venezuela, la procureure générale du pays a dénoncé le recours aux tribunaux militaires contre des civils arrêtés lors de la vague de manifestations ayant fait 38 morts depuis début avril, dont un jeune de 27 ans hier. Luisa Ortega apparaît comme la seule voix discordante au sein du camp présidentiel. Elle s'était élevée contre la décision fin mars de la Cour suprême, réputée proche du chef de l'État Nicolas Maduro, de s'octroyer brièvement les pouvoirs du Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco. Jacques Aristide.
Première économie francophone en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a abaissé d'un point hier ses prévisions de croissance à 8,5% après des chiffres impressionnants ces dernières années. Idem pour ses dépenses publiques, réduites par environ 50 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est confrontée à une chute du prix du cacao, principale ressource du pays. Les cours mondiaux sont tombés début mars à leur niveau le plus bas depuis plus de 3 ans. La haute chambre du Parlement nigérian s'apprête à valider ce jeudi le budget 2017 du gouvernement de Muhammadu Buhari, de même que son plan de dépenses le même jour. C'est du moins ce qu'a déclaré le président du Sénat, Bukola Saraki. Le président Buhari a présenté en décembre dernier un budget record de 23,24 milliards de dollars qui aurait dû être approuvé dès mars dernier. Des parlementaires s'inquiètent du blocage causé par l'absence des affaires du président en raison de son état de santé. Kenya Airways est sur le point de boucler la mise en œuvre de son plan de restructuration qui vise à redresser sa situation financière. C'est le président de la compagnie aérienne qui l'a indiqué. Kenya Airways, détenue par l'État et Air France KLM, fait face à d'énormes difficultés depuis ces 4 dernières années en raison de la chute du tourisme après une série d'attaques au Kenya perpétrées par le groupe islamiste somalien Al-Shabaab.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Odessa, bonjour à tous.
Le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions.
Vainqueur 3-0 au match aller la semaine dernière, le Real Madrid a été mis en difficulté une mi-temps chez l'Atlético. Victoire 2-1 pour les Colchoneros qui ont ouvert le score par Niguez dès la 12e minute de jeu, puis doublé la mise grâce à un pénalty de Griezmann à la 16e minute de jeu. Mais Isco réduit le score en fin de première mi-temps pour les Merengues sur un exploit de Karim Benzema. On en restera là. Une défaite 2-1 pour le Real Madrid, mais suffisant pour se qualifier pour la finale. On se rappelle que le Real avait battu l'Atlético en finale des éditions 2014 et 2016.
Ce jeudi, place à la Ligue Europa.
Oui, Lyon tentera de réaliser un exploit après la gifle reçue au match aller face à l'Ajax d'Amsterdam, une défaite 4-1. Et dans l'autre demi-finale de la soirée, Manchester United qui joue sa saison après sa victoire à l'aller 1-0 sur la pelouse du Celta Vigo.
Première sanction au Cameroun après l'affaire des factures impayées de Bruxelles.
Oui, Idrissa, vous vous souvenez, les Lions indomptables avaient été interdits de déjeuner dans leur hôtel à Bruxelles, faute de paiement. Eh bien, la sanction touche l'ex-coordonnateur général des sélections nationales, André Nguidjol, limogé mardi par décision du président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko. C'est le député Luc Koa, membre élu de la fédération, qui a été nommé pour assurer l'intérim. Souvenez-vous, en mars dernier, Hugo Bros, l'entraîneur des champions d'Afrique en titre, avait trouvé inconcevable que les joueurs et leur encadrement aient été refoulés à l'entrée du restaurant pour une histoire de facture impayée. Mais cette déclaration lui avait valu une convocation devant les autorités camerounaises début avril.
Mathias Sorgho, vainqueur de la première étape du Tour cycliste du Bénin.
Oui, le vainqueur burkinabé de la dernière édition de ce Tour du Bénin a remporté cette première étape hier, longue de 160 km entre Parakou et Savé. Mathias Sorgho a devancé son compatriote Abdoulaziz Nikema et l'Ivoirien Bachirou Conté, classé 3e. Sorgho endosse du même coup le maillot jaune de leader. Le premier béninois Augustin Akakpo est arrivé en 12e position. À suivre ce jeudi, la 2e étape longue de 80 km entre Dassa et Boïcon. Allez, Drissa, je vous laisse avec quelques mots de basket. La NBA, le championnat de basket nord-américain, ce sont les playoffs qui se poursuivent, notamment entre Washington et Boston.
Les Boston Celtics se sont repassés en tête face aux Washington Wizards dans leur duel du deuxième tour des playoffs en s'imposant 123 à 101. Mercredi, dans leur salle, les Celtics mènent 3-2 et n'ont plus besoin que d'une victoire pour accéder à la finale de la conférence Est. Mais le match 6 aura lieu vendredi à Washington et les deux équipes se sont jusqu'à présent toujours imposées dans leur salle. Les Celtics ont assommé d'entrée les Wizards à leur infligeant cinglant 16-0 dont ils ne se sont pas remis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par la République démocratique du Congo, 3 mois et 11 jours depuis sa mort. Étienne Tshisekedi n'est toujours pas enterré. Et nous vous le disions hier, dans cette même édition, l'UDPS, son parti, a renvoyé à une date ultérieure le rapatriement de sa dépouille à Kinshasa, rapatriement qui était prévu pour le 12 mai. Le litige persiste entre le parti de l'opposant historique et le pouvoir en place sur le choix du lieu de l'enterrement et les funérailles. Pour une analyse, Eddy Isango a joint un compagnon de lutte du défunt, François-Xavier Belchika.
Nous aurions souhaité qu'aujourd'hui, la date qui a été annoncée puisse être respectée. Mais cela ne peut être respecté que dans la mesure où il y a un consensus entre les dirigeants du pays aujourd'hui, la famille biologique du président Tshisekedi et sa famille politique. Voilà pourquoi nous demandons et nous lançons vraiment un appel que si, effectivement, les 12 dates prévues se montrent impossibles d'être respectées, que les uns et les autres se dépassent pour finalement essayer d'essayer en face du monde, en face de l'Afrique et en face du Congo profond, ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de subir comme humiliation, comme gêne et comme honte. Et je crois qu'il n'est pas trop tard pour enfin trouver une solution qui permette à ce que le président Tshisekedi wa Mulumba puisse bénéficier de l'inhumation digne de son combat politique. D'autant plus que les derniers jours de sa vie, il nous a laissé un testament. Le principe selon lequel l'union fait la force, la question de l'interrogation sur le posture des uns et des autres semble prendre, n'est-ce pas, le devant sur l'intérêt général, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la République et l'intérêt du peuple.
Mais comment comprendre que la dépouille mortelle d'un aussi grand personnage puisse faire l'objet de marchandages, et c'est là au contraire de mœurs et de cultures africaines?
Le calcul politicien, la recherche du positionnement, l'exploitation incommode, impropre de cet événement semble avoir pris le devant sur l'intérêt général de la nation, l'intérêt général de la République et pourquoi pas sur l'image de l'élite disparue.
Pensez-vous que ce soit les lieux des obsèques ou de la construction du mausolée qui posent réellement le problème?
Le pouvoir ne devrait pas avoir peur qu'on puisse rapatrier le corps du président Tshisekedi. Mais l'essentiel est qu'il puisse trouver un accord avec la famille politique du président Tshisekedi et surtout la famille biologique, un lieu où on peut l'entendre. Mais que ce soit sur le sol de ses ancêtres. Nous ne croyons pas que cela soit impossible. Même si aujourd'hui on ne veut pas lui construire le fameux mausolée, l'histoire n'étant pas inerte, si un jour il advient dans ce pays un pouvoir qui reconnaît au président Tshisekedi le mérite de tout son combat, ben celui-là pourra très bien construire ce mausolée-là.
Vous parlez du marchandage. Certains pensent que son fils voudrait utiliser la dépouille mortelle comme une sorte d'épouvantail afin de réclamer la primature.
Tout ce que nous disons, qu'on ne fasse pas la construction. Qu'on puisse laisser le président Tshisekedi wa Mulumba partir en paix avec la volonté de souhaiter que la terre de ses ancêtres lui soit légère.
François-Xavier Belchika, président du Congrès de démocrates ou progrès du Congrès des démocrates pour le progrès social.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Amnesty International et des organisations de la société civile centrafricaine lancent 11 mai une campagne nationale demandant aux autorités de la RCA de s'engager contre l'immunité en amenant les responsables de crimes graves à répondre de leurs actes. Solange Niamoulissa a joint Olivia Tchamba, chargée de campagne d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest.
Plus de 5000 personnes ont été tuées suite à la multiplication des actes de violence depuis le début du conflit en RCA. Des violences commises par toutes les parties au conflit, que ce soit le groupe armé anti-Balaka ou ex-Seleka. Et il est à noter également que, par exemple, en mars 2017, on avait plus de 460 000 réfugiés, des personnes qui sont réfugiées dans les pays environnants, notamment le Cameroun, le Tchad ou encore la RDC, et près de 426 000 déplacés internes.
Combien d'auteurs de ces crimes ont été arrêtés depuis les débuts de la crise? Pourtant, on sait bien que Jean-Pierre Bemba est actuellement condamné pour des crimes commis en RCA.
Nous savons par exemple que la MINUSCA, qui a coopéré avec les autorités nationales et les forces de sécurité, ont eu à arrêter près de 384 personnes entre septembre 2014 et octobre 2015. Mais bien que ces personnes aient été arrêtées, on compte parmi elles juste quelques personnes de premier plan ayant de hautes fonctions dans les différents groupes armés, car la grande majorité de ces personnes sont issues d'échelons inférieurs. Également, sur la liste des sanctions des Nations Unies, les 10 personnes qui ont été mentionnées sur cette liste semblent depuis 2013 ne pas être l'objet d'une enquête effective. Au-delà de la liste des sanctions faites par les Nations Unies, on a également la Cour pénale internationale qui a ouvert des enquêtes, et également au cours des sessions criminelles qui ont eu lieu à Bangui en juin 2015, mais également en août-septembre 2016, certains auteurs présumés ont été amenés devant les tribunaux.
Vous venez de lancer aujourd'hui une campagne. Est-ce qu'elle va permettre d'amener ces auteurs de crimes en justice?
La campagne que nous lançons, La justice maintenant pour une paix durable en République centrafricaine, elle est une campagne qui vise à obtenir justice et réparation pour les victimes. Dans le cadre de cette campagne, nous appelons à veiller à ce que les accusations sérieuses de crimes relevant du droit international et d'autres atteintes aux droits de l'homme fassent l'objet dans les plus brefs délais d'enquêtes rigoureuses, indépendantes mais impartiales. Nous mettons l'accent en fait pour atteindre cet objectif sur deux points clés, notamment le renforcement du système judiciaire national qui a été très affaibli par la crise depuis 2012 et ce renforcement notamment en garantissant le bon fonctionnement des juridictions nationales pour mettre fin au cycle de l'impunité. Mais au-delà de ce volet national de la justice, il est important aussi de veiller à apporter un soutien nécessaire à la Cour pénale spéciale ainsi qu'à la Cour pénale internationale afin que justice soit rendue pour ces milliers de victimes.
Olivia Chamba, chargée de campagne d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Les États-Unis vont continuer d'appuyer le Nigeria dans sa lutte contre les extrémistes de Boko Haram et du groupe État islamique et l'aider à faire face à la crise humanitaire qui frappe ce pays dans sa partie nord-est. C'est ce qu'a indiqué Brian Noert, l'un des porte-parole du département d'État américain en Afrique, quelques jours après la libération de 82 filles détenues par Boko Haram pendant 3 ans. Il a été joint à Johannesburg par Abdulrahman Dia.
Pour les États-Unis, l'avenir du Nigeria n'est pas seulement important pour le Nigeria, c'est aussi considérablement pour ses voisins, bien sûr, mais je dirais pour le monde entier. Étant donné la population, l'influence, c'est une économie qui pourrait être très forte, mais aussi c'est un pays qui actuellement fait face à plusieurs défis, y compris ceux qui sont défis de l'insécurité.
Et justement, la lutte contre le groupe Boko Haram et l'extrémisme de façon générale est une priorité pour le gouvernement d'Abuja. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle dynamique dans la coopération militaire entre le Nigeria et la nouvelle administration Trump?
Je dirais, concernant cette situation grave, ce défi difficile au nord-est du Nigeria, vous parlez de Boko Haram et aussi nous parlons du groupe Daesh en Afrique de l'Ouest. Ils ont fait quelques milliers de victimes et eux, ils sont la cause de même de l'insécurité de plusieurs millions de personnes au Nigeria et dans les pays frontières. Nous avons et nous continuons les États-Unis être parmi les bailleurs de fonds les plus importants aux questions d'aide humanitaire, mais aussi les États-Unis aident le gouvernement, les autorités nigériennes en tant que conseil et renseignement pour faire face à ces groupes extrémistes violents. Et ça continue, ça va continuer parce que, comme je disais, ce défi n'est pas uniquement un problème pour les Nigériens, mais c'est pour toute la région.
Et vous parliez tout à l'heure de la crise humanitaire. Quel est l'apport aujourd'hui des États-Unis dans l'aide des gouvernements de la région du lac Tchad?
Les États-Unis fournissent déjà près de 500 millions de dollars d'aide humanitaire au cours de 2 dernières années aux personnes affectées dans ce conflit. Ça continue. Nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres bailleurs de fonds, il y a d'autres partenaires. Je voudrais souligner pour les États-Unis que c'est les Nations Unies qui jouent un rôle très important pour confronter ces conditions proches de la famine.
Brian North, porte-parole du département d'État américain en Afrique. Au Burkina Faso, ce n'est pas encore une réalité, mais une proposition de loi à l'Assemblée nationale relative à l'exercice du droit de grève dans les services publics inquiète déjà les syndicats du pays. Ils sont montés au créneau pour dénoncer un texte liberticide s'il venait à passer. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Norbert Ouangré, le secrétaire général adjoint de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina.
Vous voulez une destruction de la liberté syndicale, notamment du droit de grève, à travers de multiples dispositions qui remettent évidemment en cause le droit de grève. Ça veut dire que si on doit suivre ce qui est édicté là, aucune grève n'aura plus aucun effet.
Par exemple?
Un exemple, la grève est désormais interdite à certains personnels, comme la douane, la police, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers. Elle est désormais interdite aux responsables administratifs, donc depuis les directeurs centraux jusqu'aux directeurs de service et à certaines catégories de travailleurs. Ensuite, il y a l'obligation de négociation préalable avant d'engager une action de grève.
Ça, c'est une bonne chose, non?
Pourquoi?
Négocier, si on peut obtenir ce qu'on veut par négociation avant toute grève, tout le monde gagne.
Oui, mais ça, est-ce qu'on a besoin d'écrire ça? Puisque le préavis de grève, là, il est déjà un appel à négocier. Généralement, nous déposons le préavis 15 jours avant. Et 15 jours avant, l'État a, le gouvernement a la latitude de nous appeler et de faire des propositions. Personne n'a, aucun syndicat n'a jamais refusé d'aller sur la table de négociation.
Et à votre avis, qu'est-ce qui pousse le pouvoir à faire une telle proposition de loi?
On peut imaginer facilement que c'est une réaction aux luttes qui se mènent actuellement au niveau de divers secteurs d'activité que cette proposition de loi a été imaginée, en fait, pour empêcher les grèves, pour faire en sorte que les grèves ne puissent plus porter fruit.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'il y a quand même un abus du droit de grève? Qu'est-ce que vous dites à ceux-là?
Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder le rythme, il faut regarder les problèmes qui sont posés. Est-ce que c'est des problèmes objectifs ou pas? Et quand vous considérez que dans bien des cas, il s'agit d'engagements qui ne sont pas tenus, on ne peut pas reprocher aux travailleurs de faire beaucoup de mouvements directs.
Pour arrêter cette proposition de loi avant qu'elle ne devienne une loi, qu'est-ce que vous comptez faire?
Là, on produit une lettre ouverte adressée au président de l'Assemblée nationale sous couvert président de la Commission, où nous relevons que la proposition de loi, effectivement, est une remise en cause du droit de grève, qu'elle viole certaines conventions du PIT relatives justement au droit de grève, comme la Convention 87, la Convention 98, et nous signifions que nous sommes fermement opposés à cette proposition de loi et nous l'invitons à la retirer. Si on veut nous empêcher jouir du droit de grève, nous allons mener la grève.
Norbert Ouangré, secrétaire général adjoint de la Confédération générale des travailleurs du Burkina.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française face à l'extrême droite. Pendant sa campagne, le futur locataire de l'Élysée n'a pas précisé quelle politique africaine il mènerait. Il y aura sans doute des priorités, économie, immigration, sécurité. L'Afrique peut-elle attendre quelque chose de ce jeune président? Sera-t-il en rupture avec l'héritage de la France-Afrique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.